Évangile de Jean, deuxième chapitre, versets 1 à 12. Alors je vais le lire, je ne sais pas si c'est la même version, mais je vais le lire dans la français courant. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ?» Il ne lui dit pas, « Que me veux-tu, maman ?» Il lui dit, on verra plus tard, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 100 litres, donc 600 litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Amen. Et puis le deuxième texte dans Apocalypse 19, versets 5 à 9. Une voix sortit du trône et dit, « Louez notre Dieu !» Vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des grosses eaux, aux grondements forts, coups de tonnerre, et elle disait, Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu, tout-puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres des saints, les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Amen. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana. Cette petite précision m'a interrogé. Elle m'a étonné. C'est vrai que Jean, qui a pourtant écrit ce texte 60 ans plus tard après les fêtes, donne plusieurs fois des précisions, comme par exemple avec la femme Marie de Béthanie qui arrive avec son vase d'albâtre, de nard pur. Jean précise 6 jours avant la Pâque. Et cette précision m'a étonné parce que bien que circulant depuis des décennies par voie orale, son évangile a été fixé en l'an 90 sur l'île de Patmos par Jean. 60 ans après les fêtes. Et son auteur, Jean, nous dit tout à la fin de son évangile ceci. C'est ce disciple, tu peux mettre le texte. C'est ce disciple, donc c'est lui qui parle, Jean, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc Jean était témoin. Il était là présent à Cana. Mais de quel troisième jour s'agit-il? C'est intéressant de se pencher sur le chapitre 1 parce que l'évangile de Jean, et Jean en particulier, ne se préoccupe pas du tout des récits de Noël ou de l'enfance de Jésus. Dès son ouverture au chapitre 1, il inaugure son évangile par le baptême de Jésus à l'âge de 30 ans. Ça, c'est le premier jour. Pour lui, il y a un avant, Jésus de Nazareth, fils du charpentier. Et puis, il y a un après, cette venue d'en haut, cette voix qui proclame « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ça, c'est le Jésus d'après, fils de Dieu. Et puis, toujours au chapitre 1, il y a le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est sa quête, sa pêche de 6 disciples. Alors, il ne se cite pas lui-même, un peu par pudeur, mais on sait qu'il y a l'appel sur André, puis l'appel sur son frère Pierre, le fameux Pierre, Simon, et puis Philippe, et puis Nathanaël. Et je pense qu'on peut rajouter Jacques, frère de Jean, puisqu'ils ne se citent pas, les fameux fils de Zébédée, mais ils sont cités dans les autres évangiles. Donc Jean est très discret sur son propre appel, mais les autres évangiles confirment qu'il était là. Ils sont donc 6 disciples invités de dernière minute, tous galiléens, aux noces de Cana, un village tout proche de Nazareth. Et les versets 1 et 12 nous indiquent aussi la présence des frères de Jésus et de Marie, sa mère. Cette dernière semble d'ailleurs faire partie de l'organisation. Elle est tout le temps en train de surveiller l'intendance. Elle remarque que le stock de vin est épuisé. Elle le signale à l'intendant, à l'organisateur du repas. À l'époque de Jésus, une noce juive est annoncé une année à l'avance, sans qu'on sache la date définitive, le jour exact quand aura lieu le mariage. Cela permet deux choses, de préparer l'organisation des préparatifs qui demandaient énormément de choses, parce que beaucoup de gens étaient invités, et les invités devaient de leur côté se préparer. Ils étaient invités officiellement, ils devaient se préparer, se concentrer sur le jour où l'ami du marié, le témoin du mariage, annonçait brièvement mais succinctement le départ de la noce. Il fallait donc être attentif à ce jour-là, il fallait se concentrer, il fallait aussi se préparer, avoir des habits de noce, comme le cite un autre évangile dans Matthieu, pour que... Il y avait à la fois cette préparation, cette attente, et il y avait à la fois ce signal que les noces tout d'un coup démarraient, mais que personne ne savait. Il y a donc un avant, Jésus de Nazareth, fils du charpentier, qui reçoit l'invitation avec Marie, sa mère et ses frères et sœurs, donc un an auparavant. Et puis il y a cet après, 3 jours plus tard, 3 jours avant l'événement, où tout d'un coup, il est invité. Et là, ce n'est plus le Jésus de Nazareth, fils du charpentier, c'est le Jésus, fils de Dieu, qui est présent dans une noce un peu paillarde, si vous avez lu le texte, et où il y a un peu des excès, et où finalement, les gens sont finalement pas mal alcoolisés. On peut se demander, cette sainteté de Jésus, qu'est-ce qu'elle fait dans cette fête-là ? Alors les versets 7 à 10 nous le précisent, puisque à un moment donné, il donne l'ordre à l'intendant, au serviteur, de s'occuper de ces 6 jarres de 100 litres d'eau, destinées au rite de la purification, mais qui ne sont plus joués leur rôle puisqu'elles sont vides. Et ça, c'était le monde d'avant. Ça, c'était la loi de l'Ancien Testament. Et voici que Jésus donne l'ordre aux serviteurs de remplir ces 6 jarres de 100 litres, de 600 litres d'eau à ras-bord, précise le texte. Et là, surprise, surprise, à sa dégustation, le sommelier diplômé pourtant à l'école hôtelière de Tibériade découvre un premier grand cru glacé unique. Et ceci au grand désespoir du membre anti-alcoolique de la Croix-Bleue, mais aussi de l'Office des vins vaudois qui lutte pour essayer d'évacuer ses surplus. Alors l'intendant, il est enthousiaste et il court vers le marié et il lui dit, mais en général, on sert le meilleur vin au début et puis quand les gens sont sous comme maintenant, eh ben, on leur sert de la piquette ou en tout cas du second choix. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Le 31 décembre dernier, nous étions invités avec mon épouse, qui est présente au fond là. Je le dis parce qu'elle se cache toujours. Avec chez nos amis les Eberly et avec la joyeuse présence des Glaire, nous étions donc 3 couples. Et comme nous, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas revus, on était un peu aux nouvelles, de vos nouvelles. Enfin, on a redzipété un petit peu. Et puis ensuite, on a pris aussi connaissance de nos enfants, de nos petits-enfants, où en sont-ils, etc. Et au fil de la soirée, en évoquant aussi des très bons souvenirs, puisqu'on a quand même vécu des expériences spirituelles dans le cadre de cette église et aussi dans le cadre missionnaire extraordinaire, on est gentiment glissé dans ce qui est un peu ma spécialité avec l'âge, tout d'un coup, dans le style radio-nostalgie. Du style, c'était quand même... ça n'a pas été évoqué, mais c'était un peu présent comme ça dans le style, c'était quand même mieux avant. Et c'est vrai qu'on se... on se faisait un peu du souci sur l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, sur le monde qu'on leur laisse. C'est vrai qu'on avait moins de facilité aujourd'hui, 30 jours à l'état de veau pour le papa qui a juste assisté à la grossesse alors que nous, moi, j'avais qu'un jour de congé. Bref, il y a eu d'énormes progrès, d'énormes facilités. Puis en même temps, la vie est devenue beaucoup plus compliquée. Enfin, ça, c'était la petite partie sociologique. Et puis, vers 23h30, comme toujours à Lazare, on se met à prier en attendant de regarder sa montre. Et là, on a eu un beau moment de prière qui a dépassé largement le coup de minuit. Je crois qu'on ne s'est pas réveillé, mais on s'est éveillé à 11h15, à minuit 15. Et puis, Cathy nous a partagé quelque chose tout de suite après, en disant qu'elle avait lu le texte des noces de Cana et puis qu'elle avait retenu cette phrase de l'intendant « Toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. » Comme si elle nous exhortait à ne pas nous retourner en arrière et à dire « C'était mieux avant », mais à se dire « Le Seigneur a gardé pour toi le meilleur pour la fin. » Et ce matin, je pense que c'est bien de ne pas dire « c'était mieux avant », mais de nous dire que le Seigneur a vraiment gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la joie du royaume et du règne du Christ le Messie, mais aussi la joie des noces de l'agneau. Jésus ne nous dit-il pas à chaque dimanche à la Sainte-Cène « Buvez-en tous, mais je vous le dis, Je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père pour les noces de l'agneau. » Alors, je terminerai par ceci parce qu'il y a deux notions de la fin. Il y a d'abord notre propre fin, celle qu'on ne choisit pas en principe. Elle peut être accompagnée par la souffrance, voire la déchéance. Mais le Seigneur nous dit, mais le Seigneur te dit, j'ai gardé pour toi le meilleur pour la fin. Ça, c'est notre espérance de la vie éternelle avec lui. Et puis, il y a les temps de la fin. Alors, les temps de la fin, nous y sommes. C'est probablement le début, nous dit Jésus, dans Matthieu 24. On peut l'interpréter comme l'annonce faite aux invités de la noce. Tout au début, vous êtes invités à la noce. Peut-être nous sommes au début des temps de la fin. Sans qu'on ne connaisse absolument la date de préemption, ni le jour ni l'heure, nous dit Jésus. Et aux noces de Cana, quand sa maman lui dit « ils n'ont plus de vin », Jésus répond « femme, mon heure n'est pas encore venue. » Est-ce la question de son retour ? Je laisse la question ouverte. Mais pour nous, il y a donc la nécessité de nous préparer à un événement soudain. Tout d'un coup, c'est le jour des noces de l'agneau, c'est annoncé comme dans les noces de Cana. Il y a une sorte de rapidité auquel on doit être préparé, comme tous les invités, celui de l'arrivée du marié, de l'époux, en l'occurrence Jésus le Messie. Et puis, en tant qu'invité officiel, nous sommes tous invités aux noces de l'agneau, en tant que chrétiens, sauvé et justifié par le sacrifice de Jésus sur la croix. Cette préparation, c'est une attente qui n'est pas seulement personnelle, mais qui est aussi communautaire. Ce n'est pas seulement notre propre fin qu'il s'agit, mais il s'agit du rôle du peuple de Dieu, de l'Église, de l'épouse, qui est invitée à s'aligner dans la perspective de ce retour qui s'annonce dans et qui est déjà annoncé dans le ciel, dans la louange perpétuelle, dans l'adoration perpétuelle des anciens, des prophètes et des anges. Cette joie du royaume qui vient, elle est déjà présente dans le ciel. Et la parole nous dit ce matin, « Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau, et vous l'êtes chacun d'entre vous. » Il est donc important que nous cultivions la louange, que nous cultivions l'adoration, pour que nous soyons déjà en partie branchés sur ce qui se vit déjà dans le ciel. Quand nous prions le Notre Père, que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre, comme elle est faite déjà dans le ciel. C'est déjà fait, c'est déjà inscrit. Il y a juste à savoir quand. Et quel que soit le degré de persécution qui pourrait aussi nous être destiné, que la parole de l'intendant des noces de Cana s'inscrive dans notre esprit ce matin. Seigneur, tu as gardé pour moi le meilleur pour la fin. Amen.